Joseph Maïla, vous qui êtes un être responsable, est-ce que vous avez envie de devenir un YouTuber, YouTube hero? Un héros de YouTube, pour le dire en
écoutez,
français.
Écoutez, ça ne me tente pas beaucoup, pour ne rien vous cacher. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est fascinant parce que vous avez, avec ces nouvelles modalités de connexion numérique, une possibilité de puissance, de contact, d'extension, de sortie de soi, qui sont absolument tentantes. Mais enfin, plutôt, je suis plutôt de cette génération qui pense beaucoup plus à la puissance des idées qu'à la puissance des connexions.
Bon, mais c'est justement pour, c'est la, une autre génération, pour parler de la puissance des idées que nous avons invité ici. Autour de cette table et de ce micro à cette heure matinale, il est 8h19 sur France Culture, pour parler de la communauté internationale, ou plutôt peut-être ce qu'il en reste après ce qui s'est passé cette semaine aux Nations Unies, où se tenait à la fois un sommet extraordinaire sur les réfugiés, l'ouverture de la 71e Assemblée Générale de l'organisation et un Conseil de Sécurité, occasion de discours largement commentés dans les médias, le dernier de Barack Obama devant les Nations Unies, le dernier de François Hollande devant les Nations Unis.
Pour ce quinquennat.
Pour ce quinquennat, vous avez raison, mais c'est comme ça qu'il a été présenté. Constat d'impuissance en tout cas dans les deux cas, tant d'ailleurs sur la question des migrants que sur celle du conflit syrien. Il n'y a guère que sur le climat, Joseph Maïla, que les choses ont avancé, puisque mercredi, 31 nouveaux États ont ratifié le texte de la COP21 qui vise à limiter le réchauffement climatique. Mais pour parler de ce qui a plutôt échoué, François Hollande a parlé de la tragédie syrienne comme d'une honte devant l'histoire pour la communauté internationale. Un haut responsable de l'opposition syrienne, Riyad Hijab, a dénoncé la faiblesse totale de cette même communauté internationale, l'absence de crédibilité des efforts diplomatiques pour restaurer la trêve en Syrie. Pourquoi n'y parvient-on pas, Joseph Maïla?
Écoutez, c'est une excellente question. Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre tout de go, mais Caroline Brouet, laissez-moi vous dire effectivement que j'ai été étonné comme vous, désolé de ce spectacle absolument hallucinant, où on a vu des responsables politiques importants, vous en avez cité deux, qui sont venus en quelque sorte commenter leur propre impuissance. Ce sont des acteurs du système international. Comme ils sont membres permanents du Conseil de sécurité, ils sont donc aux manettes, si l'on peut dire, de la situation en ce qui concerne la sécurité et la paix internationale, comme dit le jargon de l'ONU. Et ils sont venus dire, vous le rappeliez tout à fait, que c'est une honte, c'est une tragédie. Barack Obama a dit, mais écoutez, je suis venu vous parler d'un paradoxe. Nous pensions que l'air qui s'ouvrait serait formidable, etc. Et qu'est-ce que nous constatons? Qu'aujourd'hui, il y a du désordre un peu partout. Ça, un professeur de sciences politiques peut le dire. Même pas. Un professeur de sciences politiques apportera des explications.
C'est ça.
Non, mais un moraliste le dirait. Et effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans un système international qui ne sort pas de la fin de la guerre froide, qui n'arrive pas à se définir, à se positionner. Est-ce que on est multi-apolaire, multipolaire, post-bipolaire, etc. Et en réalité, ça pose la question, c'est le vrai sujet, de savoir qu'est-ce qu'on entend quand on parle de communauté internationale.
C'est la question que j'allais vous poser, voilà. Joseph Maïla, bien évidemment.
Vous la posiez d'une certaine manière,
de
indirectement.
De façon sous-jacente, bien sûr.
Et là, on retrouve cette idée, au fond, c'est un rêve qui a été caressé qu'un jour, je pense, sans être savant ou pédant, a Grotius, à Vatel, qui pensait qu'un jour il y aurait une espèce de communis societas du genre humain, totus orbis, disait Vittoria, en pensant que la communauté des nations du monde pourrait s'entendre un jour pour constituer une espèce de gouvernement. Alors la première erreur, Caroline Brouet, c'est de penser que l'ONU est un gouvernement. C'est pas un gouvernement. Ce sont des nations qui sont unies, mais ne constituent pas un gouvernement. Alors quand est-ce qu'ils peuvent fonctionner comme un gouvernement? Ils peuvent fonctionner comme un gouvernement au niveau du Conseil de sécurité. Quand il y a trois choses qui se présentent, il y a un consensus des grandes puissances, hein, il n'y a pas de veto, comme on dit, au Conseil de sécurité. Il y a deuxièmement une légitimité, on se dit qu'il faut agir. Et troisièmement, il y a des conditions opérationnelles. Hein. Pensez par exemple à la première guerre d'Irak, lorsqu'il y a eu cette espèce d'unanimité de la communauté internationale pour aller faire la guerre à Saddam Hussein qui avait envahi le Koweït. Et là, on se prend à rêver, on se dit, mais tiens, c'est formidable, il y a une communauté internationale. Mais quand on gratte un petit peu derrière ce qu'on appellerait un nominalisme juridique, il y a un nom, mais ce nom correspond à quoi quand on gratte un petit peu? Ben, il y a des nations qui sont en concurrence. Les Américains ne sont pas d'accord avec les Russes sur la Syrie et l'Irak, ça bloque. Les Chinois font une politique qui est la leur, on n'ose pas leur dire grand-chose. Monsieur Poutine est en Ukraine, a annexé la Crimée, qui a réagi. Et donc là, on voit cette espèce de communauté des nations qui, en réalité, reflète un rapport de force internationaux. On peut plus se cacher derrière son petit doigt et on voit un retour des puissances conquérantes, des grandes puissances.
Retour?
Oui, un retour parce que
elles avaient disparu.
Elles n'avaient pas disparu, mais elles avaient en quelque sorte été gelées. Elles étaient invisibles au moment de la guerre froide. Il y avait une telle annulation de la puissance que chacun
campait sur ses... C'est étonnant, Joseph Maïla, on avait quand même deux grandes puissances, oui, qui s'opposaient, avec derrière ces grandes puissances un tas de pays qui les suivaient. On avait quand même les États-Unis et, oui, l'URSS de part et d'autre. C'est étonnant de dire que elles étaient gelées.
Non, ça gelait leur champ de compétences, leur champ d'intervention. Personne n'osait aller sur le terrain de l'autre. Hein. Avec la fin de la guerre froide, on a pensé, au fond, qu'il y aurait des terrains de conciliation, que le marché allait réconcilier tout le monde, que la démocratie était la chose du monde la plus partagée ou la mieux partagée. Et on voit aujourd'hui une course un petit peu au nationalisme, à l'intérêt national, le sens d'une communauté universelle qui se étendue vers la réalisation de buts en commun, il n'y en a plus beaucoup. Et il y en a, vous l'avez cité, la COP21. Et on peut se demander si, au fond, l'humanité ne pratique pas cette politique, pour reprendre un terme de Kissinger, du bord du gouffre, hein, le brinkmanship policy. Est-ce que c'est véritablement, quand on est coincé, quand on se dit que le climat va faire sauter la planète, si on peut s'exprimer ainsi, que les États prennent conscience et se disent, bon, et là on peut plus jouer, il faudrait qu'il y ait quelque chose que nous partagions en commun, d'où les fameuses signatures. Alors, moi je voudrais simplement faire un petit point ici. C'est vrai que du point de vue de la gouvernance mondiale, l'ONU aujourd'hui est parfaitement déficient et qu'il faut réformer la gouvernance internationale.
Et on le dit depuis un moment, Joseph Maïla. On a fêté le 70e anniversaire de l'ONU l'année dernière. Absolument. En 2015. La question a été posée un certain nombre de fois.
Est-ce qu'on peut penser que on peut prendre des décisions au plan universel sans associer, je ne sais pas moi, l'Inde, sans associer le Brésil, une puissance africaine? Il n'y en a pas au Conseil de sécurité. Donc il y a une question, ce que vous disiez, la question de la légitimité de ce Conseil, elle se pose.
Oui, mais au risque de renforcer, pardon de vous interrompre, Joseph Maïla, au risque de renforcer encore un peu plus les puissances et le rapport de force entre puissances. Si vous en rajoutez encore plus, alors là...
Aussi, et on n'arrive pas à en rajouter, parce que précisément, on ne sait pas quelles puissances peuvent être admises dans ce club des cinq qui deviendra un club plus grand. Non, on en parle, vous avez raison, et on n'a pas trouvé encore le bon moyen de procéder à cette réforme. Ban Ki-moon s'est essayé, Kofi Annan avant lui, Boutros Ghali avait des projets au sortir de la guerre froide, mais tout cela bloque. Mais simplement, je voulais dire que on n'a pas le droit de porter un regard totalement négatif sur les Nations Unies et au risque de jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce qu'il y a des organisations qui fonctionnent bien. Toute la coopération internationale au niveau de ce qu'on appelle les organisations spécialisées. Bon, il y a des choses quand même qui sont faites en silence. Mais vous avez raison, sur le plan de la gouvernance politique, de la paix et de la guerre, de la résolution des conflits, là, effectivement, on est devant de plus en plus d'impuissance. On est devant de plus en plus de désespoir. Pourquoi désespoir? Parce que lorsque vous citiez le dirigeant syrien qui disait que nous sommes véritablement dans une impasse aujourd'hui, il n'y a pas de communauté internationale, lorsque véritablement l'ONU n'apporte pas de réponse, vous allez avoir deux choses. Vous allez avoir des gens qui vont être tentés par l'aventure, en disant de toutes les manières il n'existe pas de communauté internationale, je vais foncer par moi-même. Et puis vous allez avoir tous les apprentis sorciers, des nationalismes, des autoritarismes qui vont se dire, bon, je vais faire fi de ça. L'entrée de la Turquie en Syrie, sans crier gare, dans le conflit syrien, en convoyant hommes et troupes, elle est passée inaperçue. Aujourd'hui, ça fait partie du paysage de la guerre. Là, Monsieur Poutine qui décide de sauter à pieds joints dans le conflit syrien, aussi. Et il n'y a pas de réaction plus que ça, si l'on peut dire. Et là, effectivement, on est devant des, non pas une contradiction, mais une profonde impéritie, hein, de ce système qui était supposé moduler les conflits, modérer les conflits, mettre en avant des médiations. Quel est le médiateur aujourd'hui qui est accepté dans des conflits, médiateur universel, qui pourrait imposer des solutions, ou faciliter plutôt des solutions? On n'en voit plus. L'ONU aurait pu être ce médiateur. Mais tous les médiateurs onusiens aujourd'hui, regardez ce qui se passe avec Stéphane de Mistura, le médiateur des Nations Unies pour la Syrie, ben, il consulte Lavrov, il va voir Kerry, puis il se retourne vers les opposants syriens en disant, ben, pour le moment, les conditions ne sont pas remplies. Donc, on sent effectivement que de ce point de vue, il y a un blocage du système.
Donc, des leaderships par puissance, par nation, mais comme, c'est comme si on prenait les enceintes pour les acteurs, finalement. C'est un peu ce que disait Hubert Védrine dans une chronique sur France Culture il y a un peu plus d'un an. Il disait, on se trompe quand on parle de communauté internationale. En effet, il vous rejoignait de ce point de vue-là, parce que on prend les enceintes pour les acteurs. Ouais. L'Organisation des Nations Unies, ouais, ça n'est pas ce gouvernement du monde.
C'est exactement ça.
Mais est-ce que c'est souhaitable? C'est-à-dire que ça ne marche pas. On le constate, Joseph Maïla. Est-ce qu'on en a, au fond, besoin? Est-ce qu'on en aurait besoin d'un gouvernement international?
Ah non, un gouvernement international, je pense que ça
d'une
fait partie...
D'une communauté internationale.
Alors, une communauté internationale, bon, je suis de ceux qui pensent qu'elle existe dans ses idéaux, dans un genre humain qui est concerné par des problèmes transversaux, par des pandémies, par des questions de paix et de guerre, de réfugiés, d'États qui s'effondrent. Quand un État s'effondre, qui est responsable de la population? C'est ce qu'on appelle le devoir d'ingérence, qu'on appelle maintenant la responsabilité de protéger. Et Bernard Kouchner a joué un rôle important dans cela. Mais vous avez besoin de moduler tout ça, de diriger tout ça, de contrôler tout ça. Et là, effectivement, on voit les égoïsmes nationaux. Non, il n'y aura pas de gouvernement du monde de sitôt, mais il y a le multilatéralisme. Il y a cette idée qu'au fond, que toutes les nations du monde, peu ou prou, participent à des prises de décision. Et c'est celui-là qui est véritablement en crise. C'est le multilatéralisme. C'est la collaboration, c'est la concertation internationale. C'est celle-là qui fait défaut.
France Culture, la matinale du samedi, Caroline Brouet.
Avec notre invité Joseph Maïla, professeur de géopolitique à l'ESSEC, ancien recteur de l'Institut catholique de Paris, ancien responsable de la prospective au ministère des Affaires étrangères de 2010 à 2013. Vous évoquiez Bernard Kouchner, Joseph Maïla, ancien ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui avait mis en place un pôle religion au Quai d'Orsay, si je ne m'abuse, en 2009. Et vous dirigiez, avant de diriger la prospective au Quai d'Orsay, vous dirigiez ce pôle religion. Il servait à quoi, ce pôle religion, Joseph Maïla?
Écoutez, c'est une idée, effectivement, qui est une idée propre à Bernard Kouchner, qui disait, mais au fond, dans tous les conflits qui ensanglantent le monde, je vous parle d'il y a 5-6 ans, mais le constat est toujours valable, tous les conflits sont à peu près internes aujourd'hui, il n'y a pas de guerre internationale active, en quelque sorte, entre États. Il y en a certaines, bien sûr, on peut revenir sur le conflit palestinien, mais il n'y a pas un État palestinien en face. Les autres conflits sont des conflits gelés, comme le conflit sur le Cachemire, par exemple. Mais en réalité, les guerres sont internes, et dans toutes ces guerres, on voit de plus en plus la religion jouer un rôle important. Alors, pourquoi la religion? La religion n'est pas un facteur en soi, c'est pas une explication. Mais, quand un État s'écroule, quand un État s'effondre, quand le lien national se délite, vous avez d'autres liens qui vont monter à la vie politique. Hein. Quand on n'est plus yougoslave, quand on ne sait plus ce que ça veut dire, on est croate, catholique, on est bosniaque orthodoxe, bosniaque musulman, on est serbe orthodoxe. Donc le lien religieux peut servir de substitut à une citoyenneté défaillante. Et là, on voit effectivement les religions jouer un rôle. Et c'est là où Bernard Kouchner disait, mais pourquoi ne pas consacrer en relations internationales une analyse spécialisée sans être exclusive, hein, du facteur religieux comme déterminant partiel de la guerre et comme facteur adjuvant qui peut aider à l'instauration de la paix. Et c'est là où le pôle de religion, qui ne faisait pas de théologie, hein, je voudrais
vous en parlez au passé, il n'existe plus?
Il n'existe plus, non. Le ministre Fabius a décidé de supprimer le pôle en tant que pôle, mais la direction de la prospective a conservé, je pense, un responsable qui s'occupe de voir un petit peu ce que deviennent les religions dans les relations internationales. Vous voulez travailler sur le conflit syrien? Si vous n'avez pas compris ce que c'est qu'exactement aux Irakiens, un État islamique, qu'est-ce que c'est que le califat, à quelle symbolique il fait appel, hein. Si vous voulez voir comment Poutine est en train de porter le nationalisme russe avec l'aide de l'Église, et si vous voulez comprendre quelque chose à la politique du nationalisme indien qui ne se laisse pas séparer de l'hindouisme montant et triomphant, il faut jeter un coup d'œil, hein. Je ne dis pas qu'il faut réduire tout le conflit à cela, mais se dire au fond que c'est un facteur, un instrument parmi d'autres, peut-être pas un facteur, un instrument dans la mobilisation des populations et dans la mobilisation des consciences, et on voit les dégâts que ça fait. J'ai pas besoin d'élaborer sur ce point aujourd'hui combien des gens peuvent être portés par ce que j'appellerais une représentation exacerbée du monde, hein, qui est à la base du terrorisme souvent.
On est en ligne avec Philippe Moreau-Desfarges. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Chercheur à l'IFRI, auteur oui. des Nouvelles Relations Internationales qui paraîtra en Point Seuil le 5 janvier 2017 et d'une Histoire du Monde pour les Nuls paru en 2015 aux éditions First. Quand on regarde Philippe Moreau-Desfarges, la présentation de votre livre apparaît, c'est une totale réécriture d'un très grand classique que vous avez écrit, qui s'appelle Les Relations Internationales, qui a été réédité 7 fois depuis 1993. Mais quand on regarde la présentation de ce livre, on ne lit pas grand-chose sur la place des religions, sur la réémergence même des religions dans les relations internationales. Vous n'avez rien à en dire? C'est un concept non pertinent?
Si. D'ailleurs, c'est présent dans le camp du livre, si vous...
Je n'ai vu que la présentation. Hein.
Évidemment, non. D'ailleurs, je suis absolument d'accord avec ce qu'a dit Joseph Maïla. Alors, est-ce qu'il y a un retour du religieux? Oui, il y a ce que dit Joseph Maïla est très juste. Lorsque, je dirais, les loyautés établies s'effondrent, et notamment, je dirais, les loyautés étatiques, apparaissent d'autres loyautés, parmi lesquelles la loyauté religieuse. Mais, comme le dit également Joseph Maïla, si vous voulez, le facteur religieux est difficile à utiliser. Je vais prendre un exemple. Prenons le cas du Moyen-Orient aujourd'hui. Au Moyen-Orient aujourd'hui, il y a une lecture assez facile de dire c'est un conflit entre sunnites et chiites, c'est-à-dire, grosso modo, entre, je dirais, ceux de les radicaux d'Arabie Saoudite et l'Iran. Bon, on voit que derrière le religieux, il y a finalement toujours du politique. Au fond, Khomeini, c'est un grand chef du nationalisme iranien. De même, probablement, l'Arabie Saoudite, lorsqu'elle utilise le religieux, c'est aussi à des fins politiques, vous voyez bien. Alors, au-delà de cette problématique géopolitique, il y a une autre problématique plus générale, qui est le Moyen-Orient. Si vous voulez, le Moyen-Orient, ce serait trop long à expliquer, le Moyen-Orient est une zone, moi dans mon livre, ce que j'explique, c'est le Moyen-Orient est une zone où la modernisation est ratée. C'est une modernisation ratée. Et pourquoi? Parce que c'est une modernisation, on voit bien, qui a été souvent imposée, dictée, et le Moyen-Orient n'a jamais pu bâtir un ordre propre. Il y a eu d'abord l'ordre des mandats au lendemain de la Première Guerre mondiale, et puis il y a l'ordre américain. D'ailleurs, pour revenir sur ce que disait Joseph Maïla...
Le terme est fort, hein, quand même, modernisation ratée pour toute une région. Je dis, le terme est fort, Philippe Moreau-Desfarges, de modernisation ratée pour toute une région du monde.
Alors, attendez, alors je vais m'expliquer. Premièrement, est-ce que vous pouvez me citer... est-ce que vous pouvez citer au Moyen-Orient de véritables réussites? Alors, je peux vous en... des réussites relatives. Je vais vous en citer deux. Israël. Mais Israël, c'est un cas tout à fait particulier. Israël, c'est vrai, est un pays qui a décollé, qui a un poids technologique, militaire, etc. Prenons un autre pays. Et ça, c'est très intéressant. La Turquie. La Turquie pouvait apparaître comme exemplaire, comme justement le pays qui réussit sa même modernisation à travers l'héritage d'Atatürk. Et on voit bien que ce pays est en train peut-être, disons-le prudemment, de sombrer dans le chaos. Donc, là aussi, on voit une sorte de ratage. Alors, j'en viens au monde arabe lui-même. Le monde arabe, alors oui, il y a certains émirats qui sont très riches, mais je ne vois pas, il n'y a pas de véritable réussite comme aujourd'hui, je dirais, il y a la Corée du Sud ou même la Chine ou même le Japon. On voit bien tout cette modernisation se passe mal. Et, si vous voulez, dans cette modernisation qui se passe mal, le facteur religieux a peut-être sa place. Mais moi, je vais vous donner un autre facteur que j'évoque dans mon livre, parce qu'il m'a passionné. C'est le facteur, les rapports hommes-femmes. La modernisation passe par le bouleversement des rapports hommes-femmes. Et on voit bien que dans cette région du monde, le passage Il est difficile dans toutes les parties du monde. Il est difficile dans toutes les... et ça ne se passe pas très bien dans toutes les parties du monde. Mais disons que dans le cas du Moyen-Orient, il y a une espèce de spécificité qui, d'ailleurs, n'est pas tout à fait religieuse, qui est plus profonde que ça, qu'on peut amener d'un terme un peu contestable, qui est l'endogamie. C'est-à-dire que les pratiques endogamiques, le mariage entre soi, le mariage entre cousins, restent extrêmement forts. Et bien évidemment, dans cet univers, le contrôle de la femme par l'homme est extrêmement important. Et je pense que là aussi, c'est autant un facteur explicatif de la l'extrême difficulté du Moyen-Orient à se moderniser que le religieux. Et le religieux se greffe aussi là-dessus. Vous voyez, mais sur le général, je trouve que ce que dit Joseph Bazin, je peux qu'être d'accord avec lui sur le fait que le religieux est absolument présent, il faut le regarder, mais le manipuler avec beaucoup de prudence, comme il l'a dit. C'est peut-être un facteur, peut-être un instrument, mais c'est très important. Le
surtout un instrument du politique, un instrument du géopolitique. Est-ce que vous disiez le religieux a toujours existé dans l'espace des relations internationales, mais c'est d'abord un emblème. Bertrand Badie dit ça aussi, Joseph Maïla, que finalement c'est un emblème de mobilisation, un emblème d'identification. Ce n'est pas une cause, Joseph Maïla.
Oui, ce n'est pas une cause, mais c'est au fond qu'est-ce qui est important dans les conflits. Comme c'est la mobilisation, c'est savoir comment vous mobiliser quand vous êtes un entrepreneur de violence, comme on dit aujourd'hui en désignant les chefs de milice. C'est de savoir sur quel registre vous allez jouer pour que vous retournant, vous voyez une foule qui vous suive. Et
ça peut être un facteur de mobilisation de la communauté internationale alors.
Alors oui,
mais c'est un sujet.
Oui, mais alors il faut savoir dans quel sens on va pousser cette mobilisation de la communauté internationale. Enfin, quel idéal religieux. Mais je pense que nous sommes entrés dans une ère qui est profondément sécularisée et en même temps dans laquelle le facteur religieux continue à jouer. C'est pour cela que, pour revenir sur la question de la modernisation ratée, oui, je suis d'accord que les réussites ne sont pas flamboyantes, mais il n'y a pas une voie unique vers la modernisation. Et donc, il y a des pans entiers des sociétés arabes qui sont travaillés par les transformations, par les changements. On ne voit pas suffisamment la lutte des femmes, mais elle existe. Les Tunisiennes, par exemple, ont été admirables dans l'écriture de la nouvelle constitution, où on voulait faire des droits de la femme des droits complémentaires, dans une espèce de représentation un peu archaïque des choses, de celle de l'homme. Elles ont dit, mais non, nous avons des droits à part entière, les mêmes d'ailleurs que ceux des hommes. Et c'est vrai que ça ne s'est pas traduit aux politiques. Et lorsque ça se traduit aux politiques, on a des réussites économiques. On a des modernisations absolument fantastiques du point de vue de l'infrastructure, de l'économie. Je pense au Qatar, je pense aux Émirats Arabes Unis. Mais c'est vrai que le social ne suit pas. Oui, suit moins. Mais nous sommes dans des pays qui sont extrêmement jeunes, dans des populations qui sont extrêmement jeunes. Philippe Moreau-Desfarge a pris des exemples de pays qui ont une tradition beaucoup plus grande, comme le Japon ou comme la Turquie ottomane, qui étaient des empires. C'est vrai que le monde arabe a vécu pendant 400 ans, 500 ans sous la férule de l'Empire ottoman, avant de tomber dans la politique de la colonisation et des mandats. Mais ce constat, qui n'est pas faux, cache beaucoup de nuances, beaucoup de trajectoires, beaucoup de détails qui font effectivement que le monde arabe n'est pas aussi figé dans le patriarcalisme ou dans l'immobilisme sociétal.
Juste parce que j'aimerais que cette conversation entre Joseph Maïla et Philippe Moreau-Desfarge ne tire pas vers constat d'une modernisation ou non du monde arabe et du Moyen-Orient, mais plutôt revenir à cette question du facteur religieux dans les relations internationales. Joseph Maïla, j'aimerais quand même revenir sur cette idée que développe aussi quelqu'un comme Georges Corme, l'historien et économiste, pour une lecture profane des conflits, sur le fait que souvent le facteur religieux qu'on met en avant cache effectivement des intérêts géopolitiques. Il n'empêche qu'on a l'impression, quand on est profane, comme je le suis, en matière de géopolitique, que le facteur religieux est revenu en force, oui, sur le devant de la scène, est revenu en force sur le devant des Nations Unies, puisque c'était notre point de départ, Joseph Maïla. On parle en Syrie aujourd'hui d'un conflit entre sunnites et chiites, d'un conflit religieux. Certains se battent dans la communauté des chercheurs, cette fois, pour savoir si c'est c'est vrai ou pas, si c'est politique ou si c'est religieux. Comment expliquer malgré tout ce sentiment d'un regain ou d'un retour du religieux si vous dites les uns et les autres que non, on se trompe, tout ça est politique. Joseph oui. Maïla.
Alors, nous allons réconcilier, enfin, je vais essayer de réconcilier tout le monde en sachant que c'est une mission impossible. Le conflit est politique.
Pas de communauté internationale, vous l'avez dit.
Tout conflit est fondamentalement politique. C'est-à-dire, il traduit une bataille, une confrontation autour du rapport de force et autour, au fond, de l'accaparement du pouvoir ou de sa distribution dans les pays démocratiques. Bon. Mais dans cette bataille, dans cette confrontation, dans cette lutte des hommes pour le pouvoir et pour sa répartition, il y a des facteurs qui sont des facteurs économiques. Et il y a d'autres facteurs qui sont des facteurs écologiques. Il y a le rapport homme-femme. Il y a aussi le rapport religieux. Donc, j'en fais pas un facteur exclusif. Dans certaines régions du monde, à un certain moment de l'histoire, avec un certain état de conscience, le religieux peut être structurant de votre comportement. Si vous êtes profondément religieuse, croyante, et que vous avez la conviction qu'il y a un ordre moral qui peut être tiré des Écritures, cette politique tirée des Écritures, comme disait Bossuet, et vous cherchez à la transporter et à la traduire dans la réalité. Donc la religion est à prendre au sérieux. Quand je veux une société musulmane...
Dans tous ces aspects, y compris jusqu'aux intégrismes, parce que c'est ce qu'on voit surtout au point d'aujourd'hui, Joseph Maïla.
Les intégrismes, bon, c'est hyperbolique. Ça va être, ce n'est pas seulement le comportement individuel, c'est toute la société qui doit être bâtie sur des principes religieux, et on sort souvent cette fameuse charia en disant, mais voyez, il y a une transposition. Effectivement. Alors pourquoi ? Peut-être parce que, au fond, on ne joue pas suffisamment au plan politique, les idéologies mobilisatrices ne sont plus là. La perte de ce conflit qui nous a fixé pendant toute la guerre froide, est-ce que le monde sera capitaliste ou est-ce qu'on va vers un marché ou vers le communisme des moyens de production, etc. Il est résolu, mais il est résolu sans qu'il y ait une espèce d'idéologie de substitution qui vienne, et on voit monter aujourd'hui des formes de loyauté primordiales, je ne dis pas primaires, primordiales, qui font que votre famille, votre couleur de peau, votre région, non pas votre religion, mais la confession sunnite, ce sont des confessions au sein du même religion, aux protestants catholiques, pourquoi aller chercher très loin? Il y a un conflit qui ensanglantait l'Europe il n'y a pas très longtemps, qui était le conflit en Irlande du Nord. On oublie que la France est structurée autour de guerres de religion, qui sont heureusement derrière nous. Mais je veux dire que la religion peut servir de ciment, mais toujours, toujours, lorsque le politique est en crise. La religion ne joue pas d'elle-même comme cela. Il y a un cercle plus large d'appartenance à la communauté nationale. Quand ce cercle est malade, quand cette appartenance à la commune condition qui fait que nous sommes des citoyens d'un seul pays n'est plus là, alors le religieux, mais aussi les clans, mais aussi la langue. Regardez nos amis belges, ils ne se battent pas autour de religion, mais autour de quelle langue utiliser en Belgique, par exemple. Enfin, des communautés qui sont structurées autour d'une langue nationale. Voilà, à ce moment-là, effectivement, il prend la place de ce qui devrait être une citoyenneté pleine et entière.
Restez avec nous, Joseph Maïla. Merci beaucoup, Philippe Moreau de Farge. Nous attendons donc avec impatience votre nouveau livre, Nouvelles Relations Internationales, qui paraîtra donc en point seuil le 5 janvier 2017. Restez avec nous, Joseph Maïla, pour le dernier temps de cette matinale du samedi.